Chapitre 16. Premier résultat du vol. 5 ou 6 semaines après, Oscar, rétabli, sortait déjà de son appartement. Lucille lui avait fait suivre avec persévérance le traitement qui devait en faire son mari tout en le guérissant. Il ne me sera probablement jamais donné de voir soigner un malade avec autant de patience et de dévouement. Elle avait le don d'amuser et d'occuper Oscar du matin au soir. Cette charmante fille allait même jusqu'à mettre son infirmité à contribution pour égayer les longues heures de souffrance de celui qu'elle aimait. Elle se plaçait souvent devant la glace et se mettait à mimer les artifices et les façons maniérées d'une coquette qui cherche à conquérir les cœurs. Elle les imitait avec tant d'esprit et de vraisemblance qu'on eût juré qu'elle jouissait de l'usage de ses yeux. Elle montrait aussi une facilité prodigieuse à déterminer par le seul bruit de leur voix la position respective des personnes qui se trouvaient dans l'appartement. Me choisissant pour victime, elle me priait d'aller, sans faire aucun bruit, me placer où je voudrais dans la chambre et de prononcer son nom tout haut. Puis elle se munissait de son côté de l'un des bouquets dont elle entourait le lit du convalescent. À peine avais-je crié « Lucille !» que le bouquet, lancé d'une main sûre, venait m'atteindre en plein visage. Je ne la vis jamais se tromper une seule fois en faisant cette expérience, et elle ne pouvait se fatiguer du plaisir enfantin qu'elle prenait à montrer son adresse. Elle ne laissait à personne le soin de verser les potions d'Oscar. Elle savait s'arrêter à temps au bruit que faisait le liquide en tombant de la cuillère. Elle devinait les mouvements que faisait notre malade en se relevant sur son séant, par le déplacement de l'air qu'elle sentait sur son propre visage. Elle savait dire aussi si le soleil brillait ou se cachait par l'effet de la lumière sur son front et sur ses joues. Grâce à un système qu'elle avait adopté, elle savait tenir en bon ordre tous les petits objets et les fioles qui encombrent d'ordinaire une chambre de malade. Elle prenait un malin plaisir à tout ranger vers l'heure où nous autres, pauvres gens doués de la vue, nous songions à allumer les bougies. Elle aimait, à ce moment où nous la voyons comme un léger fantôme avec sa robe blanche, paraissant et disparaissant tour à tour, lorsqu'elle passait devant la fenêtre encore éclairée, et dans l'obscurité qui envahissait la chambre, elle aimait, dis-je, à enlever les tasses et les fioles qui avaient servi ce jour-là, pour les remplacer par celles dont on avait besoin pendant la nuit. Elle ne nous permettait d'allumer les bougies que pour nous montrer tous les objets rangés soigneusement à leur place, comme si un génie familier avait passé par là. Elle se mettait alors à se moquer de nous, en nous plaignant sincèrement de ne pas savoir comme elle nous passait de nos yeux. De même, elle prenait plaisir à errer à travers la maison la nuit et à en visiter les moindres recoins, et lorsque Oscar devint assez fort pour descendre l'escalier, elle voulut absolument lui servir de guide. « Tenez-moi bien par le bras, lui disait-elle, car vous êtes resté si longtemps renfermé dans votre chambre que vous ne connaissez plus la maison. Tenez, vous voilà dans le couloir. Attention, voici une marche. Il y en a une autre là. Bon, encore une. Et maintenant que nous sommes sur le palier, prenez garde au tournant et méfiez-vous de cette tringle qui dépasse la marche et de ce pli du tapis qui pourrait vous faire trébucher. » Elle menait ainsi Oscar jusqu'au salon, si bien qu'on eût juré que c'était lui et non pas elle qui était aveugle. Qui aurait pu, du reste, refuser les services d'un guide aussi charmant? L'innocence pleine d'ingénuité de Lucille et l'infirmité dont la jeune fille était affectée contribuaient à donner à toutes ces démarches un caractère tout particulier, et la manière tout à fait libre et démocratique d'après laquelle j'appréciais les mouvements d'un cœur sur la scène de la famille, comme les mouvements d'un parti sur la scène de la politique, me permettaient de suivre avec un intérêt spécial le développement de ce qui se passait entre le malade et sa garde malade. Au bout de 2 semaines, Lucille avait achevé la cure du malade, c'est-à-dire qu'elle avait reçu d'Oscar une offre de mariage. Je ne crois pas me tromper en affirmant que ce fut Lucille qui amena ce dénouement. Que je me trompe ou non, ce qui est certain, c'est qu'elle était comme folle quand elle vint m'annoncer cette nouvelle dans le jardin par une belle soirée d'automne. Elle se mit à sauter de joie, et ce qui est bien pis, elle me fit commettre, à l'âge que les femmes n'aiment pas à divulguer, l'inconvenance de l'imiter. Elle me saisit par la taille et nous nous mîmes à valser sur le gazon, ayant pour galerie Madame Finch, vêtue de la jaquette en mérinos bleu condamné, et tenant toujours son roman d'une main et son baby de l'autre. Elle nous criait bien fort que, dans un endroit comme Dymchurch, nous ne pourrions jamais rattraper l'heure que nous perdions à pirouetter sur l'herbe. Nous tournions toujours et ne nous arrêtâmes que lorsque la respiration nous manqua. Il y eut ce soir-là une entrevue entre Oscar et le père de Lucille. Je ne puis vous donner de détails sur l'entretien qu'ils eurent, mais le recteur revint la tête haute et se dandinant sur ses petites jambes. Il embrassa sans mot dire sa fille d'un air ému et daigna me tendre la main avec un sourire de condescendance digne du plus parfait charlatan qui se soit assis sur un trône. Quand il eut réussi à maîtriser son émotion, il prit la parole d'une voix si forte que je crus qu'il allait se rompre la poitrine, et le déluge de paroles dont il s'inonda lui-même peut se résumer à ceci sur le papier. Il voyait dans Oscar un nouvel enfant, comme s'il n'en avait pas déjà bien assez comme cela. Il reconnaissait dans cet événement le doigt de la Providence. On me blâmera peut-être, mais en française impie que j'étais, je ne voyais que le doigt de M. Finch entrant dans la poche d'Oscar. Le jour de la cérémonie n'était pas encore fixé. On s'était seulement arrangé pour que le mariage eût lieu au bout de 6 semaines environ. On voulait ainsi donner le temps au notaire de préparer le contrat et à Oscar de se remettre tout à fait du choc qu'avait subi sa santé. Il faut avouer que nous n'étions pas sans inquiétude sur son compte. Guéri au physique et au moral, il semblait cependant qu'il y eût quelque chose qui n'allait pas. Les contradictions que j'avais déjà remarquées dans son caractère revinrent plus fortes que jamais. Lui qui, n'écoutant que son indignation, avait eu le courage de se précipiter seul sur 2 bandits, ne pouvait plus entrer qu'en tremblant dans la pièce où la lutte avait eu lieu. Lui qui s'était moqué de nos conseils, quand nous l'avions averti du danger qu'il courait à rester seul chez lui, trouvait maintenant que 2 hommes, un jardinier et un domestique, ne suffisaient pas pour le protéger la nuit et pour lui inspirer un sentiment de sécurité parfaite. Il se voyait constamment, en rêve, attaqué de nouveau par le misérable, armé de son casse-tête. Il se voyait gisant dans une mare de sang et tâchant d'attirer Jix. Il se bouchait les oreilles quand on lui conseillait de se remettre à son travail de prédilection et nous suppliait de ne pas lui rappeler des souvenirs se rattachant à l'affreuse catastrophe. Il ne voulait pas même jeter un regard sur sa boîte à outils. Le médecin, appelé pour le voir, nous déclara que le système nerveux avait été ébranlé et qu'il n'y avait que le temps qui pût réparer le mal. Je trouvais que c'était manquer de courage que de ne pas savoir secouer son indolence et sortir de ce mauvais pas par un vigoureux effort. J'avais avec Lucille des discussions continuelles à cet égard, et un soir même, que nous étions occupés à jouer du piano et à causer, elle entra dans une véritable colère parce que je ne voulais pas donner ma sympathie, sans restriction aucune, à son bien-aimé. « J'ai déjà fait la remarque, Madame Pratolungo, me dit-elle avec animation et en élevant la voix, que vous n'êtes jamais juste envers Oscar. » Les préparatifs du mariage avançaient et les notaires produisirent une ébauche, pour ainsi dire, du contrat. Oscar écrivit à son frère, qui était à New York, pour lui faire part de la détermination qu'il avait prise et des circonstances qui l'avaient amené à offrir sa main à Lucille. Quoi qu'on ne m'eût pas montré dans quels termes était conçu le contrat, je devinais à certains petits détails que le recteur avait profité de l'insouciance de son futur gendre en matière d'argent. On me raconta que M. Finch avait pleuré à la lecture du contrat et je fis Lucille sortir d'un entretien qu'elle avait eu avec lui dans son cabinet de l'air le plus indigné que je lui ai jamais vu. « Ne me demandez pas, me dit-elle en serrant les dents, la cause de ma colère. J'aurais honte de vous l'avouer. » Quand Oscar entra quelques moments après, elle s'agenouilla littéralement devant lui. Une émotion qu'elle ne pouvait maîtriser s'était emparée de tout son être et semblait enlever toute contrainte à ses paroles et à ses actes. « Oscar, je vous adore, dit-elle avec une ardeur fébrile et en lui baisant la main. Vous êtes le plus noble et le plus généreux des hommes et je ne serai jamais digne de vous. » Ces paroles, pleines d'enthousiasme, pouvaient selon moi se traduire ainsi. Mon père a votre argent et il s'est servi de moi, sa fille, pour en venir à ses fins. » Les 6 semaines étaient écoulées et tous les préparatifs depuis longtemps terminés. Le mariage, cependant, ne se célébrait pas. L'état d'Oscar, au lieu de s'améliorer avec le temps, comme nous l'avait dit le docteur, n'avait fait qu'empirer et les symptômes nerveux devenaient de plus en plus graves. Oscar pâlissait et maigrissait chaque jour. Nous fîmes venir le médecin vers les premiers jours de novembre pour savoir ce qu'il pensait sur le changement d'air comme dernière ressource pour combattre le mal. Mais une circonstance fortuite retarda son arrivée et Oscar renonça à le voir ce jour-là et vint au presbytère. On arrêta le docteur dans le village pour le prévenir de ne pas aller au sable. Il vint donc nous retrouver et nous le laissâmes seul dans le boudoir de Lucille avec son malade. Ils restèrent si longtemps renfermés que Lucille, qui attendait avec moi dans la chambre à coucher, s'impatienta et me pria de frapper et de demander si elle pouvait assister à la consultation. J'aperçus, quand j'ouvris la porte, le médecin et son malade qui, debout contre la fenêtre, causaient tranquillement. En jugé par leur maintien, il n'y avait pas matière à s'inquiéter du résultat de la consultation. Oscar, quoiqu'un peu fatigué, me parut partager le calme parfait du docteur. « Pardon, dis-je à celui-ci, mais il y a dans la pièce voisine une demoiselle qui désirerait vivement connaître le résultat de la consultation. » Le médecin regarda Oscar en souriant. « Je n'ai rien de nouveau à apprendre à mademoiselle Finch. Les symptômes que vient de me détailler M. Dubourg me paraissent les mêmes que j'ai déjà observés. Le système nerveux n'a pas recouvré son équilibre aussi vite que je m'y attendais et je ne vois aucun motif pour s'inquiéter sérieusement tout en étant fâché du peu de progrès qu'il y a dans l'état du malade. Mais à son âge, on doit forcément guérir. Tout ce que j'exige de M. Dubourg et de Mlle Lucille, c'est de la patience. Vous opposez-vous à ce que M. Dubourg change d'air ? Nullement, il peut aller où bon lui semblera et se distraire comme il entendra. « Vous me permettrez de vous faire observer que vous prenez tous sa maladie trop au sérieux. À part un fâcheux ébranlement du système nerveux, M. Dubourg n'a rien, absolument rien. Il n'y a aucune trace de lésion dans les organes et le pouls est fort satisfaisant. Je n'en ai jamais vu, continua-t-il en prenant doucement le poignet d'Oscar, de plus régulier que le sien. » Comme il disait ces mots, une contraction horrible passa sur les traits d'Oscar. Ses yeux se tournèrent d'une manière effrayante jusqu'à ce qu'on n'en vît plus que le blanc et son corps se tordit de gauche à droite comme si une main gigantesque l'étreignait. Avant que nous eussions pu dire un mot, il tombait en convulsion aux pieds du docteur. « Grand Dieu ! M'écriai-je, qu'y a-t-il ? » Le docteur défit, sans répondre à ma question, la cravate d'Oscar et repoussa les meubles qui se trouvaient près de là en regardant toujours Oscar qui se tordait à terre. « Vous ne pouvez donc lui être d'aucun secours, lui répétai-je. » Il secoua la tête d'un air grave. « Mais qu'est-ce donc ? M'écriai-je. « C'est, madame, une attaque d'épilepsie. »